Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager. De transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Tout sur elle et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'une sage-femme. Mais avant ça, on doit vous passer une petite annonce. Anna, pour cet épisode, on a eu le soutien de Charlie Cran, un éditeur de Puriculture Design.
Oui, et ce qui est super, c'est qu'ils ont accepté de faire une tombola solidaire au profit de la Maison des Femmes. Alors la Maison des Femmes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une structure absolument merveilleuse qui est à Saint-Denis. Alors je vous invite pour en savoir plus à regarder sur leur site internet, mais qui fait tout un tas de choses, et en particulier qui soigne et qui accompagne les femmes qui sont victimes de violences. Donc l'idée pour la tombola solidaire, c'est assez simple. Vous allez sur le site internet simonedonne.com, vous faites un don de 2 euros qui ira donc à la Maison des Femmes, mais en plus ça vous permet de gagner éventuellement un produit Charlie Cran, donc ça grosso modo vous l'avez compris tous les avantages.
Revenons à Tout sur elle et aujourd'hui on va se demander qu'est-ce que c'est une sage-femme.
Et oui, et la question mérite d'être posée parce qu'on va voir que c'est pas si simple.
Alors, une sage-femme, moi j'ai lu que c'était une personne dont le métier est de surveiller la grossesse et d'assister les femmes lors de l'accouchement. J'ai bien l'impression que déjà cette définition est un peu réductrice, non ?
Ouais, c'est beaucoup plus que ça une sage-femme. Je précise tout de suite que je vais pas être très objective parce que j'adore ma profession, mais c'est beaucoup plus que ça une sage-femme, c'est aussi le suivi gynéco, c'est la rééducation du périnée, c'est les IVG, c'est 10 milliards de choses en fait, le suivi de la grossesse, la préparation à la naissance et à la parentalité, enfin 10 milliards d'autres choses.
On va commencer par le début, comment on devient sage-femme ?
C'est plus complexe qu'il n'y paraît, souvent, peut-être parce que c'est un métier de femme qui s'adresse aux femmes, en tout cas, c'est vrai qu'on est un peu dénigré, il faut le dire. Hein, souvent, les gens, ils nous disent alors, vous avez fait combien ? 2-3 ans d'études ? Ben non, en fait, les sages-femmes, c'est pas rien. Elles ont fait 5 années d'études universitaires, avec un socle commun, avec les futurs médecins et futurs dentistes. Donc, la sage-femme est un vrai professionnel médical, c'est pas paramédical. La distinction médicale-paramédicale, c'est qu'en fait, elles peuvent établir des diagnostics, prescrire des examens complémentaires, prescrire des arrêts de travail, des examens sanguins, des radiographies, tout ce qu'on veut. Hein. Elle est vraiment, entre guillemets, son propre chef. La limite de la sage-femme, c'est la pathologie. Admettons, par exemple, vous venez pour votre suivi gynécologique, la sage-femme dépiste que vous avez un cancer du sein. Là, par contre, clac, elle passe évidemment à un spécialiste, à un médecin spécialiste qui va vous soigner.
En fait, ça fait que depuis 2009 que les sages-femmes peuvent faire du suivi gynécologique qui s'adresse à toutes les femmes et pas que les femmes enceintes. Et ça, il n'y a pas suffisamment de gens, entre guillemets, qui le savent, j'ai l'impression.
Oui, exactement. Comme d'ailleurs, les gens ne savent pas trop que ça peut se faire auprès d'un médecin généraliste. Des fois, il y a des médecins de ville qui peuvent tout à fait vous faire ça. Les sages-femmes peuvent le faire. Et ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, ce n'est pas la question. Mais c'est vrai que le retour des femmes est assez bon parce qu'il y a vraiment... Les sages-femmes, on prend la femme de manière holistique, on pourrait dire, c'est-à-dire complètement. Hein. Et souvent, les femmes disent qu'on est plus gentil, qu'on est plus à l'écoute, qu'on est plus... Alors, ça dépend évidemment des médecins, des praticiens, mais c'est vrai que allez voir une sage-femme, vous verrez.
Question un peu bête peut-être, mais les sages-femmes, c'est que des femmes ou il y a des hommes aussi ?
Non, c'est pas du tout une question con. En fait, la profession, elle est ouverte que depuis 1982 aux hommes. Et en fait, il n'y a qu'un pour cent d'hommes. Donc c'est vraiment une profession très, 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 très féminisée. Et alors, je ne veux pas faire de la paranoïa débile, mais je pense vraiment que c'est pour ça qu'on est aussi peu reconnu et aussi mal payé et aussi dans l'état dans lequel nous sommes, quoi.
Anna, je pense que ce que beaucoup ont du mal à comprendre, et ce qui est important de préciser aujourd'hui aussi, c'est quelle est la différence entre une sage-femme et un gynécologue ?
Oui, et c'est d'autant plus important que les gens imagine qu'il y a une guéguerre entre nous, ce qui est, et je tiens à le dire, absolument pas le cas. Ou s'il y a une guéguerre, c'est avec certains praticiens, entre certains praticiens, mais personnellement, ce n'est pas une guéguerre qui me concerne. La différence entre une sage-femme et un gynécologue, c'est pas le même métier, donc on peut pas comparer les petits pois et les carottes, et ben on peut pas comparer tellement les sages-femmes et les gynécologues. Les gynécologues obstétriciens sont des médecins spécialistes de la pathologie, pas du tout les sages-femmes, puisqu'on l'a dit, leur fonction, leur limite s'arrête au moment de la pathologie. Admettons, et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. J'ai dépisté chez une femme, en lui prescrivant une échographie de l'utérus, qu'elle avait effectivement plein de fibromes dans son utérus. Voilà, là, ça s'arrête là pour moi. Et donc, je l'ai envoyé vers mon confrère gynécologue obstétricien pour qu'il prenne en charge ses fibromes, chose que je ne sais pas faire moi. À l'inverse, un gynécologue, il n'est pas tellement formé pour prendre en charge un accouchement physiologique. J'ai jamais vu personnellement de gynécologue masser le bas des reins, accompagner une femme qui ne souhaitait pas de péridurale. Donc c'est pas le même métier et donc il n'y a pas de guéguerre, c'est juste deux fonctions totalement complémentaires. Vous savez, il y a aussi les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Il y a les dentistes et les chirurgiens stomatologues. C'est un peu ça. On a un rôle qui est souvent plus de proximité, nous, avec les femmes.
Peut-être qu'on s'imagine qu'il y a une hiérarchie entre vous, en réalité.
Ça, c'était peut-être vrai il y a un certain temps. Maintenant que les sages-femmes, je pense, passent par la filière médecine, ça n'a plus lieu d'être. Je vois bien que certaines sages-femmes, d'il y a peut-être 20, 30 ans, ont un rapport parfois conflictuel, un peu, je sais pas, comme si elles se sentaient en dessous. Moi, je ne me sens pas du tout en dessous. J'ai un rapport avec mes confrères qui est totalement égalitaire. Je ne fais pas le même métier qu'eux, ils ne font pas le même métier que moi, et nous nous respectons avec nos singularités. Souvent, il m'arrive de prendre en charge une femme en parallèle avec un gynécologue obstétricien, et les choses se passent très bien. Moi, je préfère mon métier, évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'exerce, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, mais eux trouvent que c'est beaucoup plus intéressant. Moi, par exemple, arriver sur une fin de travail, faire une césarienne sans connaître ni rien de cette femme, je trouve ça pas très intéressant, alors que prendre en charge une femme tout au long du travail, je trouve ça passionnant, mais eux préfèrent faire une césarienne, voilà. À chacun ses spécificités. Alors, bien sûr, on veut me faire parler sur les gynécologues obstétriciens commettent des actes parfois délictueux, particulièrement. Je ne m'arrêterai pas sur la question. Je crois que c'est à eux de faire leur propre travail d'assainissement de leur profession, mais certainement pas à moi qui suis extérieure à leur profession.
Pourquoi tu as voulu devenir sage-femme ?
Bah parce que, en fait, j'étais quand même vraiment fascinée par le début et par la fin de l'existence, en particulier par le début. Quand on voit un accouchement, c'est effectivement un truc médical. Mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment un truc, une histoire familiale, une histoire, et puis il y a une fascination, enfin il se passe un truc de malade quoi, qu'on peut pas expliquer rationnellement. Et donc c'était pas de la médecine pure. Ce que j'ai aimé dans la profession de sage-femme, c'est de la médecine, mais c'est aussi de l'accompagnement psychologique, c'est aussi une dimension même spirituelle. En fait, ce qui est marrant, c'est que les patients, ils attendent de nous qu'on fasse quelque chose en plus que de la médecine. Et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui jalousent cette profession et qui voudraient la faire, parce que, en fait, les gens, une fois qu'ils ont connu ce que c'est que cette profession, ils disent « putain, c'est vachement bien bah, ». Alors après, pas très objectif, mais c'est quand même la plus humaine des professions. C'est la plus belle profession du monde. Souvent, on dit ça, mais c'est vrai.
Moi, à la base, je savais que je voulais faire un métier. C'était un petit peu flou, hein, mais je savais que je voulais faire un métier pour aider les gens. Et c'est par le biais des études de médecine que, petit à petit, a germé en moi l'idée et la possibilité de faire sage-femme. Les études de sage-femme me plaisaient, quoi. Et je retrouvais tout ce que je voulais en termes d'aide à la personne et le fait de me sentir utile, le fait de me sentir utile à l'autre.
C'est un métier qui implique qu'on touche, qu'on sente, qu'on voit, qu'on écoute, qu'on entende. Et je me suis jamais vue derrière un bureau à traiter des dossiers ou manipuler des données dont je peux pas mesurer l'impact tout de suite. J'avais en tête un métier dans le relationnel et un besoin d'être vraiment utile et le sentir tout de suite surtout.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être sage-femme. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, je connaissais pas le nom de la profession, du métier en lui-même, mais j'ai toujours été attirée comme un aimant par les femmes enceintes et par les nouveau-nés. Avec du recul, je crois que j'ai toujours été un peu fascinée par ce concept d'être capable de former de toutes pièces un être humain. Une fois que j'ai commencé à parler de médecine, tout le monde me parlait d'être gynéco. Mais moi, non, j'ai compris qu'en fait, c'était sage-femme. Je voulais du médical, mais je voulais de l'humain, du suivi, du vrai. En plus, j'ai découvert qu'une sage-femme était bien plus présente que juste au moment de l'accouchement. Et là, ça a fini de me convaincre. C'est-à-dire, imaginez que j'optais pour un métier où j'allais pouvoir accompagner la femme tout au long de sa vie à travers plein d'étapes. Ça a fini de me convaincre. Et aussi, j'ai pas eu médecine à la fin de la première année. Ça a probablement fini d'acter mon choix, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est triste à dire parce que je crois que par snobisme, j'aurais été capable de choisir médecine plutôt que sage-femme à la fin de la première année. C'est là que j'ai compris qu'autour de moi, personne ne savait trop ce qu'était une sage-femme.
Les sages-femmes que vous entendez sont Raphaël Buaud-Delaunay, Valentine Burucoa et Robin Potier. Être sage-femme, c'est faire du suivi gynécologique, c'est-à-dire ?
Alors, suivi gynécologique, bah, c'est vaste. Hein. C'est des missions de dépistage, d'examen, de discussion. C'est aussi les vaccinations. C'est aussi comment ça va dans votre vie. C'est les frottis.
Et c'est la contraception, non ?
C'est la contraception. C'est éventuellement les IVG. Oui, c'est tout un tas de choses. C'est très vaste.
Et justement, une sage-femme peut prescrire une contraception ?
Bien sûr.
La poser ?
Bien
sûr. Faire
le
suivi ?
Tout à fait. Hein, si vous avez, par exemple, vous avez envie d'un stérilet au cuivre, je dis n'importe quoi, une sage-femme peut bien sûr vous le poser.
Ensuite, une sage-femme, ça s'occupe de femmes qui attendent des enfants.
C'est absolument.
Et qui vont accoucher.
Exactement. Tout le suivi de la grossesse, tant sur le plan médical que la préparation à la naissance et à la parentalité. Ça suit aussi le travail, ça suit l'accouchement, ça suit les suites de l'accouchement. C'est la grande spécialiste, le grand Manitou des naissances en France. Et elles assurent quand même, ces sages-femmes, 82% des naissances en France. C'est énorme. Tout homme, toute femme est passé dans les mains d'une sage-femme. Et pourtant, ces sages-femmes-là sont payées 1600 euros, 1700 euros par mois. Alors qu'en fait, c'est vrai, c'est la première arche... Enfin, c'est les premières mains qui vous touchent, quoi.
Qu'est-ce que j'aime dans ce métier ? Vaste sujet. La première chose, je pense que c'est de m'occuper essentiellement des femmes. Il y a leur bébé aussi que j'aime éperdument, mais elles m'impressionneront toujours par les ressources qu'elles ont en elles pour tout mener de front, tout supporter. J'aime aussi être à cette place-là, au creux de l'intime, dans les secrets de ceux que j'accompagne, connaître leur histoire. J'aime aussi être cette spectatrice privilégiée de la naissance d'une famille. C'est assez fascinant quand on y pense. J'aime aussi que la maïeutique ne soit pas une science exacte. On sait vraiment jamais ce qui va se passer, ni quand, ni parfois pourquoi. Et en fait, notre intuition et l'expérience qui grandit ont une place très importante là-dedans. Ça efface pas du tout l'importance des études qu'on doit mener, ça reste une science. Mais on a chacune une sensibilité différente qui a toute sa place dans notre profession.
L'autre chose que j'adore dans mon métier, c'est... la reconnaissance et la gratitude qu'ont les couples pour nous, les professionnels sages-femmes, et puis pour notre profession plus généralement. Quand on sort de ces 12 heures de garde de salle de naissance, parfois on sort fatigué, on sort lessivé, mais s'il y a bien une chose qui reste, ce sont les sourires, ce sont les remerciements, et c'est ça quelque part qui nous fait tenir.
Sage-femme, c'est un métier tellement complet, tellement riche. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers qui permettent autant de combiner ces deux grandes facettes qui sont le suivi médical et l'accompagnement éminemment humain. C'est un métier qui sait assouvir ma curiosité scientifique, qui est en perpétuelle évolution, dont la pratique change non-stop au gré des progrès, des études médicales. Sage-femme, c'est l'occasion de vraies rencontres, de vrais échanges. Je pense pas me tromper en disant qu'on a un statut un peu à part dans le milieu médical.
C'est particulier en France, c'est cette manière d'être sage-femme ou c'est un peu pareil dans le reste du monde ?
Non, c'est un peu pareil quand même. En fait, on est très mal payé en France. Il y a des pays dans lesquels les sages-femmes ont moins de compétences ou d'autres plus de compétences, mais globalement, c'est un peu pareil. La particularité française, c'est qu'on est quand même assez mal payé. Alors, il y a d'autres pays où elles sont mal payées, mais nous, on est vraiment mal payé. Ouais.
Tu t'encourages quand même les gens à devenir sage-femme s'ils ont envie ?
Non. Par exemple, on me pose souvent la question, si mon fils, ma fille, des gens que j'aime qui sont très proches veulent devenir sage-femme, je les découragerai. Parce qu'on ne peut pas souhaiter ça, c'est tellement dur qu'on ne peut pas le souhaiter à quelqu'un qu'on aime.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger cette profession alors ?
Bah, je ne sais pas, moi je suis très optimiste. J'ai l'impression que grâce aux femmes qui se sont vraiment... ont fait plein de choses ces dernières années... J'ose espérer que les sages-femmes vont faire partie de ce mouvement-là et qu'on va être enfin reconnus. Mais c'est vrai qu'en fait, les sages-femmes, on n'a pas envie de les entendre parce qu'elles parlent de trucs tabous. Elles parlent de sexe, d'accouchement, d'enfantement, de postpartum, que des trucs que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Et je pense que grâce à la libération et grâce à tout ce foisonnement des femmes en ce moment, j'ai l'impression que peut-être on va plus avoir envie de nous écouter. On a beaucoup de choses à dire, les sages-femmes ont beaucoup de choses à dire sur les femmes.
Je trouve hyper frustrant de faire un métier, le métier de mes rêves quelque part. Et à côté de ça, on m'empêche de faire mon métier comme je le souhaite parce qu'on n'a pas de reconnaissance, que ce soit d'un point de vue salarial ou que ce soit d'un point de vue de moyens, hein, les moyens humains, les moyens matériels.
On a déjà un rythme usant puisque les naissances ne préviennent pas évidemment. On peut travailler le jour, la nuit, pendant Noël, les week-ends, les jours fériés. Et c'est pas forcément toujours évident de vivre à contre-courant des autres. Mais en plus, on n'est vraiment plus assez pour exercer, notamment à l'hôpital public. On est très mal payé pour le niveau d'études qu'on a, la responsabilité des vies qu'on a entre les mains, notre savoir-faire, ces conditions délétères pour notre santé mentale et physique. Voilà, ce manque de reconnaissance, je pense qu'il est inhérent à une autre chose que je n'aime pas dans ce métier, et ce sont les clichés qui l'entourent. Personne ne sait vraiment ce qu'on fait avant de nous rencontrer, et beaucoup s'imaginent qu'on est de mignonnes petites fées qui accueillons une jolie petite vie toute rose dans un cocon de douceur, et que notre rôle se limite à tenir la main d'une femme qui devient mère et pouponner son nouveau-né. Et ça, c'est parce que les clichés autour de la maternité douce et heureuse persistent, alors que sans dire que ça peut pas être idyllique, parce que parfois ça l'est, mais c'est quand même bien plus compliqué que ça. On vit des situations très trash parfois, violentes, ou alors d'une tristesse extrême. On est constamment confronté à l'urgence, et c'est pas toujours simple non plus de rentrer chez soi avec ces histoires-là en tête.
Je regrette du coup que ce monde de la sage-famerie soit un peu guimauve, un peu gnangnan dans l'imaginaire collectif. On n'est pas que des femmes douces, habillées en rose et fans de bébés. Ça, faut que ça change dans la tête des gens. Arrêtons les tenues roses, les Instagram roses, les posts cucu, montrons l'étendue de nos compétences, nos convictions. Bref, donc je changerai de ça. Je changerai ça, cette image old school et tellement pas 2021 de la sage-femme. Et ensuite, évidemment, je changerai nos conditions de travail, notre salaire, notre non-reconnaissance. Comme mes collègues, hein, je suis lassée de ces gardes de merde, qui certes sont moins nombreuses que les gardes passionnantes, heureusement, mais encore trop fréquentes. J'en ai marre d'arriver en garde et d'avoir une fois sur deux déjà envie de tourner les talons et de rentrer chez moi en voyant l'activité. Bien évidemment, je changerai ça, quoi, nos conditions de travail. Redonnez-nous envie de bosser, redonnez-nous le plaisir de venir en garde. Et puis lâchez-nous quoi avec la vocation et waouh, c'est le plus beau métier du monde. Pour 2000 euros par mois, je suis désolée, j'ai plus envie de me flageller. J'ai envie de mon métier, mais j'ai pas décidé de me sacrifier.
Ça veut dire quoi pour toi du coup être sage-femme ?
Ouais, ça c'est la grande question. Être sage-femme, c'est accepter d'être ce que la patiente attend qu'on soit. Bien sûr, j'ai mon job médical à faire, mais il faut être plus que ça. Et ça, c'est à la patiente de le déterminer. Elles ne le font pas consciemment. Mais il y en a qui attendent que je sois, par exemple, un peu axée nutrition, hein, qui vont vouloir que la partie nutrition... Donc dans ce cas-là, ok, je vais donner toutes les compétences en nutrition. Il y en a d'autres, elles ont perdu leur maman, elles ont besoin d'une maman de substitution. Eh ben ok, je suis d'accord pour faire ça pendant la grossesse, pour faire cette fonction de maman, je vais les entourer, les nanas. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un rôle plus paternaliste et qui vont avoir besoin d'une fonction presque spirituelle. Eh ben, je suis ok pour le faire. En fait, j'endosse la blouse qu'on veut me faire endosser. Et ce qui caractérise pour moi la sage-femme, ce qui doit caractériser la sage-femme, c'est l'égalité parfaite. C'est pas parce que je détiens un savoir que je suis au-dessus.
Ça veut dire quoi concrètement? Que tu vas le partager, ce savoir-là, ou que tu vas apprendre de tes patientes?
J'apprends de mes patientes et que, voilà, moi, ce que je peux te dire, par exemple, de l'infection urinaire, c'est ça. Mais j'ai tout autant, je veux qu'elle prenne ses antibiotiques en ayant compris pourquoi elle prend ses antibiotiques et pourquoi c'est intéressant qu'elle les prenne.
Donc, pour toi aussi, tout l'intérêt d'être une sage-femme, c'est que c'est un métier où rien ne se ressemble, où ça change tout le temps, où tu vas apprendre en permanence des patientes, de leurs expériences. C'est ça aussi qui fait la beauté du métier.
Ouais, exactement. Je suis pas du tout la même sage-femme depuis que j'ai commencé maintenant. Quand je dis que les patientes, elles veulent pas l'entendre, mais ce sont vraiment mes patientes qui ont fait Anna Roy, ce sont mes patientes. C'est pas Anna Roy. Anna Roy, avec ses livres d'obstétrique et ses 5 ans d'études, c'est rien. Anna Roy, c'est ses patientes. C'est elles qui m'ont appris à être sage-femme. Elles m'ont appris à faire plus comme si, se taire, savoir se taire. Au début, je savais pas me taire, fait que je parle. Maintenant, je sais me taire. Elles m'ont appris à me réjouir. Bah, j'ai le droit de dire quand je suis contente. Les résultats sont bons, bah, je suis contente, bah, je le dis. Elles m'ont autorisé le droit d'être triste avec elles. Parce qu'au début, ça, on cache, on est là, non, il faut pas que je... Et elles, bah oui, si, je suis triste aussi. Moins que toi, bien entendu, mais je suis aussi triste. Enfin, elles m'ont appris à être normale, quoi, en fait. Mais c'est pas facile hein, d'être professionnelle de la santé. Et c'est nos patientes qui m'ont permis d'être la sage-femme que je suis aujourd'hui.
Et quand tu dis que tu as évolué, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, soit dans d'autres épisodes, soit en off. Tu as évolué aussi sur le fait que de reconnaître qu'à un moment donné, tu avais pu être une moins bonne praticienne ou peut-être même d'être maltraitante à certains endroits. Comment on fait pour se déconstruire à ce point-là et reconnaître ça? C'est quand même pas facile.
J'aurais pas été capable de le dire il y a 2 ans. Ça a été très dur et de dire que j'étais maltraitante, parce qu'effectivement, il y a une vidéo où je dis que je suis maltraitante. Bah, j'ai raconté une garde, tout simplement. J'ai écrit le récit d'une garde. Et en fait, je disais, ah, vraiment, l'institution hospitalière est maltraitante. Vraiment, c'est maltraitant, l'institution hospitalière. Puis d'un coup, j'avais vraiment, hein, c'était en novembre, je me suis dit, mais attends, en fait, qui pose les actes? Bah, c'est Anna Roy, c'est pas l'institution hospitalière. Donc, c'est moi qui suis maltraitante. Je suis le bras armé d'une institution, mais donc, c'est moi. C'est bien moi qui suis maltraitante. Et puis, de toute façon, je crois qu'il faut toujours, à la fin de sa journée, dire, ça, c'était bien. Et ça, c'est vraiment, c'était pas bien. C'était pas bien parce que tatata. Et comment je peux faire pour rectifier le tir? Si vous n'êtes pas humble, vous êtes mort. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein? Parce qu'on fait des trucs tellement importants. Attendez, quand vous avez réanimé un bébé, c'est-à-dire que vous avez permis qu'il vive, ah, moi je suis désolée, mais je me sentais quand même un peu bonasse, quoi. Putain, et moi j'ai permis que la vie continue, quoi. Donc c'est difficile de se dire, attends, ok, t'as fait ça, c'est bien. Mais est-ce que t'as parlé suffisamment au père qui était là, qui était complètement blême et traumatisé? Est-ce que t'as parlé au bébé des gestes que t'étais en train de faire? Donc il faut toujours tout interroger sur soi et sur les autres.
Et justement, comment tu gères le côté émotionnel? Parce que moi, je suis pas du tout donc professionnelle de la santé. Et j'imagine que émotionnellement, tout le monde dit que l'accouchement, c'est soit la pire journée, soit la plus belle journée de sa vie. Enfin voilà, il y a quand même une émotion incroyable qui se passe, en tout cas autour de la maternité au moins. Mais j'imagine qu'il faut aussi être là pour accompagner les femmes qui perdent un enfant, que quand on est maman, vu que t'es maman, bah faut, forcément on se met un peu à la place aussi de la personne. Enfin, comment on gère ça?
Alors moi je le gère très mal. Moi je le gère très mal. D'abord pendant mes études et mes premières années, on m'a dit il faut se blinder. Il faut mettre de la distance thérapeutique. Ce qui leur arrive à eux ne t'arrive pas à toi et donc tu mets une espèce de mur de glace. Mais moi, j'y arrivais pas, quoi. Alors, moi, je pleurais, j'allais me cacher pour pleurer et tout. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, non, qu'est-ce que c'est que cette connerie de distance thérapeutique? Donc, du coup, je le gère mal. Parce que du coup, je suis contente avec les gens, je suis triste avec les gens, et du coup, bah, c'est vrai que c'est dur, quoi. Mais je pense qu'il faut mal le gérer, parce que le problème de mettre le mur de glace, c'est que quand on met le mur de glace, c'est difficile d'être empathique. Alors, il y a des gens qui arrivent à mettre un mur de glace en étant empathique. Ouais, ça, c'est les gens exceptionnels. Moi, je suis pas exceptionnelle. Donc, moi, je mets pas de mur de glace, je m'en prends plein la gueule. J'ai fait le choix de faire une profession comme ça, je peux faire autre chose. Personne ne m'oblige à être sage-femme. Le jour où on ne veut plus être empathique, on fait autre chose. C'est très dur de dire ça, mais je le pense quand même.
Un de tes plus beaux souvenirs de sage-femme?
Ouais, si on me demande toujours ça.
Ouais.
Mais franchement, je ne peux pas dire. En fait, quand je dis... Mais alors là, vous allez dire que je mens.
Je t'assure, Nina,
c'est vrai ce que je vais dire. C'est que tous les jours, j'ai des trucs de malade qui m'arrivent. Mais je te jure, c'est vrai.
Ok.
Mais vraiment, j'ai des moments, j'en chialerai tellement c'est beau. Mais tous les jours.
Tous les jours. Et un des pires alors, un des pires souvenirs.
Ah bah, il y a des souvenirs très douloureux. Ouais, où j'ai, rien que j'y pense, j'ai des décès, des trucs, j'ai envie de crever tellement c'était dur, quoi. Et puis il y a des trucs aussi merveilleux, des réparations, des... Enfin, il y a des femmes qui sont sauvées par l'accouchement, quoi. Ça, c'est quand même super. Vraiment, une femme, elle peut sortir de son accouchement, grâce à l'accouchement, se sentir hyper puissante et réparée. Ah, quand on a fait ça, quand on a participé à ce qu'elle ressente ça, on est vachement content. Hein.
Je sens que t'as pas envie de parler des moments les plus difficiles. Mais qu'est-ce qui peut être vraiment dur? Juste qu'on se rende compte, en fait. Enfin...
Eh bien, il y a beaucoup de bébés qui meurent. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Il y a des femmes qui ont des sales diagnostics. Et puis, il y a des femmes qui aussi accouchent sous X. Les femmes qui décident d'accoucher sous X, souvent, c'est des grands actes d'amour. Hein. Je ne sous-entends pas que ce sont des monstres, pas du tout, au contraire. Fin. Mais ça reste quand même triste quand une femme, des fois, elle dit au revoir à leur enfant alors qu'elles n'ont pas du tout envie. Mais que c'est les circonstances de vie qui font. Et ça fait trop de peine. Parce qu'on a trop de peine pour cette femme qui ne peut pas faire autrement, c'est atroce. Non, il y a des situations qui sont très douloureuses. Et c'est vrai que quand c'est autour de la naissance, c'est très, très, c'est très, très douloureux. Quoi. La mort sur un visage d'enfant, c'est un truc... Moi, je ne peux pas, quoi. Enfin, je peux pas. J'ai pas le choix, mais c'est vraiment, je m'y ferai jamais. De voir un nouveau-né mort, ah putain. La nature est une salope quand même parfois. Vraiment, c'est dur quoi.
Ouais, je veux bien te croire.
Et donc, il faut savoir porter les parents, tout ça, ça c'est vachement dur.
Mais en France aujourd'hui, je suppose que comme on a quand même un plutôt bon hôpital, qu'on a quand même fait pas mal de progrès, il y a peut-être aussi moins d'enfants qui meurent à la naissance ou moins de mamans, en tout cas, qui meurent en accouchant. Enfin, c'est...
Oui, bien sûr. Mais la mort fait partie de la naissance. Et je crois qu'il faut le dire à tout le monde, la mort périnatale, c'est fréquent. C'est fréquent, les bébés qui meurent pendant dans le ventre, qui meurent parce qu'ils ont des malformations. C'est quelque chose de très fréquent. Et j'avais publié une vidéo sur Instagram là-dessus, sur la mort périnatale. Bah, j'étais quand même... tout le monde a été vraiment surpris de l'ampleur de la chose. C'est qu'en fait, c'est pas rare. C'est extrêmement tabou, mais c'est pas rare du tout. Alors, il faut pas effrayer les gens en leur disant ça va être l'enfer. Tout. Non, pas du tout. Mais qui n'a pas vécu de fausse couche? Qui n'a pas vécu de mort? Assez peu de gens, en fait, finalement. Ça fait partie de la vie.
Est-ce que t'as un modèle de sage-femme?
Ah ouais, ouais, j'ai carrément des modèles et des anti-modèles. Et c'est comme ça que je me suis construite. Il y a des sages-femmes que j'oublierai jamais, quoi. Alors, je sais pas... Pour respecter leur intimité, leur pudeur, je sais pas s'il faut que je les cite là. Mais j'ai croisé quand même des super nanas, quoi. Ouais, bien sûr, j'ai des modèles. Il y a des nanas, je me suis dit, je vais être comme elles. Et il y a des nanas, je me dis, ah non, je veux surtout pas être elles, bien sûr.
Et justement, je crois que j'avais entendu que pendant quasiment une de tes premières gardes, t'avais rencontré une super nana. Tu peux raconter cette histoire un peu?
Ah oui, c'est-à-dire que c'était une femme d'un certain âge... Mais je me suis dit, ça a été mon premier modèle dans ce sens où la nana avait quand même fait naître 3 enfants. Elle n'était pas fatiguée, elle gérait des urgences. Enfin, c'était quelqu'un de merveilleux, quoi. Et tout ça avec une douceur, une gentillesse, une... Je me suis dit, waouh, là, mais la nana, elle est bionique, quoi. Elle s'appelle Martine Bourgogne, pour la citer, elle est à la retraite maintenant, mais c'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est des gens exceptionnels, ces gens. Ces femmes-là.
C'était Tout sur Elle avec un épisode qui vous permet de découvrir le métier de sage-femme. Et d'ailleurs, Anna, on a entendu entrelacer des témoignages d'autres sages-femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle?
Il y a Robin Potier qui est sage-femme au Bleuet. Il y a Valentine Burucoa qui est aussi sage-femme au Bleuet d'ailleurs, qui est en train de créer une structure assez géniale autour de la santé de la femme. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram. Alors, je cite J-E-E-N. _raconte, Jean_raconte.
On le mettra en lien de l'épisode, évidemment.
Et puis, il y a Raphaël Biaud-Delaunay, qui est du compte que vous connaissez peut-être, Boum le cœur, sur Instagram, et qui écrit vraiment très, très bien. Mais en fait, des sages-femmes, vous en avez de toutes sortes. Vous avez des sages-femmes de PMI, vous avez des sages-femmes de dispensaire, vous avez des sages-femmes d'hôpital, des sages-femmes à domicile, d'HAD, etc. Vraiment, intéressez-vous-y, vous verrez, c'est souvent des nanas quand même assez exceptionnelles, des nanas et un peu de mecs souvent exceptionnels.
C'est vrai que là, la répartition un homme, deux femmes n'est pas du tout la répartition réelle.
Non, pas du tout.
En tout cas, merci pour votre écoute et merci pour tous vos commentaires. On vous rappelle que dans cet épisode, on vous invite très fortement à participer à une tombola solidaire pour la Maison des Femmes, qui est un lieu extraordinaire, qui a un accueil incroyable pour les femmes victimes de violences. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le postpartum du quotidien. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à nous mettre des étoiles, des cœurs, à nous écrire sur le compte d'Anna-Anna.Roy-du-bas. Ce podcast est un podcast d'Anna Roy avec moi, Nina Pareja, et produit par Acna Productions. À très bientôt. Crédit musique, Anno Domini Beats, Like That.